Eh bien, c'est quoi le Vendredi Saint? Ça nous ramène à la dernière semaine de Jésus, alors qu'il se dirigeait vers la croix, lorsqu'il allait s'offrir en sacrifice pour les péchés de l'humanité. Ce soir, j'aimerais vous lire un passage dans 1 Pierre 2. Et vous savez, cette semaine sainte où Jésus se dirige vers la croix, le jeudi soir, il se retrouve avec ses disciples. Et c'est la dernière scène. Et cette sainte scène, nous allons la prendre ensemble en mémoire de ce que Jésus a fait après justement ce discours. Alors j'aimerais vous encourager à aller chercher les éléments, si vous avez des éléments à la maison, soit du jus de raisin ou un jus et un morceau de pain, parce que nous allons conclure ce discours en prenant la sainte scène ensemble. Maintenant, la sainte scène, cette scène avec Jésus, ça s'est produit le jeudi soir et le vendredi, le lendemain. C'est là que Jésus meurt sur la croix pour nos péchés. Le lendemain, il est dans le tombeau, samedi, et le dimanche, il va ressusciter d'entre les morts. Il revient à la vie. Il passe de la mort à la vie. Il va passer 40 jours avec plusieurs personnes, des centaines de personnes, plus de 500 personnes l'ont vu vivant après sa mort. Mais ce soir, nous célébrons Vendredi Saint, et on veut regarder ensemble cette scène que nous lisons dans les Écritures. Et pourquoi 1 Pierre? Parce que 1 Pierre chapitre 2, nous allons lire deux passages, 1 Pierre chapitre 2, vers la fin du chapitre, et 23 à 25, et nous allons lire un verset dans le chapitre 3, parce que ça résume vraiment bien la nature, la vraie nature de la mort, la signification de la mort de Jésus, et les implications pour nous dans notre vie. Alors, 1 Pierre, laissez-moi vous lire ce passage dans 1 Pierre chapitre 2, et je vais le lire à partir de verset 23. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. Le chapitre suivant, verset 18, dit ceci, « Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de nous conduire, vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. » Maintenant, ce passage est très important, ces deux passages en fait sont très importants parce que nous avons la signification de la mort de Jésus. Mais ce n'est pas simplement une signification théologique, quoique c'est important, c'est majeur la théologie, c'est important. Il y a des gens qui ont peur de ce mot-là, mais ça veut simplement dire l'étude de Dieu. Nous voulons connaître Dieu, c'est ça la théologie. Nous faisons de la théologie parce que nous voulons connaître Dieu, sa nature, qui il est, ce qu'il a fait, ses œuvres. Mais ce passage aussi a un impact sur nous, sur notre quotidien. Nous allons voir d'ailleurs trois facettes sur la vraie nature de la mort de Jésus, mais aussi deux implications dans notre quotidien. Ça touche deux domaines. Et laissez-moi vous les donner tout de suite d'ailleurs, et ce passage va déployer finalement cette signification de la mort de Jésus-Christ et les implications. Si on regarde la nature de la mort de Jésus-Christ, on voit trois facettes. Premièrement, sa mort est légale, juridique. Deuxièmement, c'est final. Et troisièmement, c'est volontaire. Et ça a toute une implication pour nous, une implication dans deux domaines. Premièrement, cette mort de Jésus-Christ nous conduit à Dieu, mais aussi nous incite à vivre pour Dieu dans la sainteté, à devenir de meilleur en meilleur. Alors, regardons premièrement la nature de la mort de Dieu. Premièrement, la mort de Jésus-Christ a une signification légale, juridique. Verset 18 du chapitre 3 dit ceci, « Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de nous conduire à Dieu. » Maintenant, c'est essentiellement la même chose qu'avec un passage dans Paul, lorsqu'il écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. C'est essentiellement la même chose. Voilà ce que ça signifie. Au moment parfait, dans le calendrier souverain de Dieu, il y a eu un transfert. En un instant unique, Dieu a traité un juste comme s'il était un injuste. Les mots juste et injuste ont une signification juridique dans l'original à cette époque. Ce que ça signifie, c'est d'être en accord avec la loi ou ne pas être en accord avec la loi, violer la loi, ne pas être en règle avec la loi. Alors, si tu fais selon la loi, il n'y a pas de lien légal contre toi. Il n'y a pas de réclamation contre toi. Tu es libre d'aller et venir, de faire ce que tu veux. Mais si tu n'es pas en règle avec la loi, cela signifie que tu es redevable. Tu as une dette. Par exemple, prenons les impôts, c'est la même chose. Tu peux devoir du temps, tu peux devoir même ta vie, ça peut aller jusque-là. Tu perds des privilèges. Vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas juste. C'est être injuste. Et c'est ce que ces deux mots signifient. Ce qu'il nous est dit ici, c'est que Jésus était juste, mais qu'un jour particulier, à un moment particulier, Dieu l'a traité d'injuste. Cela signifie que notre passif, notre dette envers Dieu, à cause que nous avons violé la loi de Dieu, sa volonté, nous avons péché, notre dette a été transférée sur les épaules de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle une imputation, un transfert de dette sur Jésus. Un transfert a eu lieu. Quand il est dit que Jésus est devenu injuste, ça signifie pas que Jésus tout d'un coup est devenu pécheur. Jésus n'est pas devenu un menteur, un hypocrite, un orgueilleux, absolument pas. Jusqu'à la fin, il est même en train de prier pour ses ennemis, ceux qui l'ont cloué à la croix. Il prie même pour eux. Il dit, Père, pardonne-leur ce qu'ils font. Non, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a eu un transfert légal. Il est devenu, sur le plan légal, pécheur, dans ce sens-là. Il est devenu injuste légalement, alors qu'il était vraiment juste. Combien de fois les gens vont me dire, tu sais, Normand, j'attends avant de devenir chrétien, avant de venir à Jésus, parce que je ne suis pas encore prêt, je suis pécheur, j'ai beaucoup de choses à régler dans ma vie, je veux mettre ma vie en règle avant de venir à Jésus. Et pourtant, regardez ce que le verset 18 du chapitre 3 dit, « Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés, lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de nous conduire à Dieu. » Voyez-vous, c'est Jésus qui nous conduit à Dieu. Certains pensent qu'ils peuvent s'emmener eux-mêmes vers Dieu, mais c'est impossible. La Bible est claire sur cette question. On ne peut pas être sauvé ou réconcilié avec Dieu, être justifié par nos propres forces. Lorsque l'on croit, lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ, nos péchés lui sont imputés, transférés. Sa justice vous est imputée. Il est devenu légalement pécheur pour nous et nous devenons légalement justes en lui. Dès que l'on croit, dès que l'on place notre foi en Jésus, nous sommes déclarés justes, justifiés devant Dieu par la foi, réconciliés avec lui. Cela signifie que nous sommes devenus légalement justes et une semence est placée dans notre cœur et nous fait revivre spirituellement. Et il y a de quoi qui se passe, le Saint-Esprit vient dans notre vie et tranquillement va changer notre cœur, notre caractère, notre vie. Et c'est la raison pour laquelle la justification et la sanctification vont ensemble. Maintenant, si la mort de Jésus est donc une nature légale, elle est aussi finale, définitive. Toujours au verset 18, au chapitre 3, il est dit, « Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. » Jésus est mort une fois pour toutes. Lorsque l'on place notre foi en Jésus pour recevoir son salut, nous sommes sauvés une fois pour tout. C'est fini. Romains 8, 1 dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est classé, c'est fait. Regardez ce que Jésus dit à sa mort sur la croix dans Jean 19, verset 30, il dit « Tout est accompli ». Et puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Voyez-vous, cette expression-là, tout est accompli, signifie c'est entièrement payé. La dette des pécheurs est payée. Jésus a satisfait aux exigences de Dieu. C'est fait, c'est accompli. Maintenant, étant donné que Jésus a satisfait à toutes les exigences de Dieu, il n'y a plus rien à faire pour nous rendre acceptables aux yeux de Dieu. Il n'y a rien à ajouter à l'œuvre de Jésus. C'est complet. Maintenant, les implications de cette vérité sont nombreuses, mais prenons juste une question de la question de la conscience. La conscience qui est un outil entre les mains de Dieu pour nous montrer ce qui ne va pas dans notre vie, ce qui attriste Dieu. Maintenant, la conscience est un outil, mais on peut dire à notre conscience, « Tu sais quoi, ma conscience? Je suis heureux que tu sois là. » C'est un message. Ça nous rappelle qu'on s'éloigne de Dieu. J'ai besoin de toi, ma conscience, pour me remettre en question, pour m'inciter à revenir à toi, au Père. Mais je vais te dire une chose, c'est que la conscience, tu ne peux pas me dire que je ne suis pas assez bien pour que Dieu m'aime. Parce que tout ce qui a été nécessaire pour que Dieu m'aime est terminé, c'est complet, tout est accompli. La mort de Jésus aussi était d'une nature volontaire. Quand on lui a lancé nos insultes, il n'a pas riposté. Quand il a souffert, il n'a pas proféré de menaces. Au contraire, s'est confié à son Père céleste, celui qui est le juge, parfaitement juge. Jésus-Christ est mort volontairement. Qu'est-ce qui a retenu Jésus sur la croix? Les clous? Il est le créateur de l'univers. Est-ce que ce sont les chaînes? Il est le créateur de l'univers. Il aurait pu se libérer librement, très vite comme ça, par sa puissance. Jésus aurait pu tout arrêter, à tout moment. Il aurait pu partir. Qu'est-ce qui le retenait là? Qu'est-ce qui l'a attaché à la croix sous cette incroyable douleur et souffrance? C'est son amour pour toi. Rien d'autre. Il n'y a absolument rien d'autre d'assez fort dans l'univers qui aurait pu retenir Jésus sur la croix, sinon son amour pour toi. Jean 10, 18 dit ceci, « Personne ne me l'enlève, parlant de sa vie. Personne ne peut m'enlever la vie, dit Jésus. Il dit, je la donne de moi-même. » Voilà la nature de la mort de Jésus. C'est une mort qui est légale, finale et volontaire. Ça a plusieurs implications pour nous. Mais ici, dans ce passage, on en soulève deux. Premièrement, sa mort nous conduit vers Dieu. 1 Pierre 3, 18 dit ceci, « Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés, lui le juste, il a souffert pour des injustes, afin de nous conduire à Dieu. » Voyez-vous, la croix guérit notre âme de toute maladie, qu'il s'agisse de la tentation, d'accusation, de licence, de légalisme, ou de trop de culpabilité, ou d'un manque d'esprit de repentance. Peu importe où l'on est, la croix s'occupe de nous. Regardez ce que Jésus dit. Ce que Jésus a déjà supporté pour toi. Regarde ce qu'il a déjà souffert pour toi. C'est un raz-de-marée, vague après vague, d'agonie, de souffrance infinie, telle que personne n'a jamais souffert. Il a déjà fait ça pour toi. Il a tout supporté pour toi. Son amour est fort, son amour est incassable. Il te donne son amour quoi qu'on fasse. La porte est toujours ouverte pour un retour. Il n'y a pas de condamnation pour toi en Jésus. Son amour est si fort qu'il est incassable, il est infaillible. Il a déjà supporté l'infini pour toi. Penses-tu pouvoir faire quelque chose de tellement grave que ça va briser son amour pour toi? Tu ne peux pas. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu en Jésus. La mort de Jésus affecte un autre domaine aussi. Elle nous libère du péché afin qu'on vive pour la justice. Jésus est mort pour qu'on vive pour la sainteté, que l'on cherche à nous améliorer de plus en plus et chercher à plaire à Dieu de plus en plus. En d'autres mots, lorsque nous sommes tentés de faire le mal, pensons à la croix. Pensons à tout l'amour qu'il a eu envers nous au point de se rendre jusqu'à la croix et souffrir tout ce qu'il a souffert. C'est le génie de la croix. Si tu tombes, il y a un réconfort incroyable. Et si de l'autre côté, tu envisages de t'éloigner de Dieu, de sa volonté, la croix vient envers toi avec des arguments les plus solides et les plus puissants pour nous ramener à la raison. Pourquoi j'agirais ainsi alors que Jésus a manifesté tant d'amour pour moi? Rien de plus fort pour m'inciter à changer de direction, me repentir et aller vers Dieu, que de voir, que de penser, de réfléchir à l'Évangile, de penser à tout l'amour que Jésus a démontré à mon endroit lorsqu'il est allé à la croix. Jésus est mort une fois pour toutes pour nous emmener à Dieu afin qu'on puisse mener une vie sans péché, mourir au péché et vivre dans la sainteté. Le Christ a souffert pour nous. Et vous savez, la souffrance de Jésus est la plus grande inspiration à l'adoration. Il y a eu un moment donné, il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle « Les 10 doigts pour Dieu » par Dorothy Clark Wilson, qui parle du Dr. Paul Brand, qui travaillait avec les lépreux en Inde. Et de temps en temps, il y avait ces lépreux qui se réunissaient ensemble et puis ils avaient un temps de communion intime. C'est des lépreux, des gens qui avaient plus de doigts, plusieurs n'avaient plus de doigts, certains avaient juste des morceaux qui avaient été amputés, évidemment. Et là, ils se réunissent ensemble pour avoir un temps de communion intime. Et un jour, le Dr. Brown était là. Et puis, on lui a demandé de se lever pour dire quelques mots. Alors, il a accepté spontanément. Il n'avait rien de préparé, tout ça. Alors, il s'est levé. Et en se levant, il a commencé à regarder les mains de tous ces lépreux qui étaient devant lui. Il a passé un bon moment juste à regarder les mains des gens qui étaient là, qui avaient tellement souffert pendant leur vie. À un moment donné, il a commencé à parler. Voici ce qu'il a dit. Il dit, « Vous savez, je suis un chirurgien. Un chirurgien spécialiste de la main. Et c'est plus fort que moi, lorsque je rencontre les gens, la première chose que je fais, je ne peux pas m'empêcher de regarder leurs mains. » Et il a dit, « J'aurais tellement aimé examiner les mains de Jésus. » Alors que ses mains sont sur la croix, transpercé par des clous, ces clous qui a rendu sa main tordue et estropiée. Et il a dit ceci, il dit, vous savez, et n'oubliez jamais, vous savez, à la fin, Jésus aussi était infirme. Et là, tout d'un coup, dans cette salle, avec ses lépreux et ses lépreuses, lorsqu'ils ont réalisé l'ampleur de la souffrance de Jésus pour eux et pour elles. Ces lépreux sans doigts ont levé les mains vers le ciel et ont commencé à adorer Dieu et à louer Dieu. Il n'y a rien qui est plus inspirant à la louange et avoir un cœur plein d'adoration envers notre Dieu que de penser aux souffrances de Jésus. Et ce matin, ce soir, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons prendre cette sainte scène. Nous voulons nous rappeler le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alors, le pain et la coupe, Jésus nous a demandé de prendre le pain et la coupe. Pourquoi? Le pain représente son corps, dit Jésus, et la coupe représente son sang. Jésus n'a donné que 2 rituels, en fait. Le baptême par immersion, qui est unique, une fois, on se fait baptiser par immersion, juste une fois après avoir donné notre vie ou accepté Jésus comme sauveur. Et la deuxième rituel, c'est la Sainte Cène. Pourquoi le pain, pourquoi la coupe? Parce que Jésus a dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » Jésus veut que l'on se rappelle, que l'on célèbre et qu'on n'oublie jamais la mort, sa mort et son sacrifice, ce prix immense qu'il a payé pour nous procurer la justice et nous réconcilier avec Dieu. Le pain, en fait, c'est la vie. Et le sang, la coupe, représente la justice. Nous recevons la vie éternelle, la vie spirituelle. Nous connaissons une résurrection spirituelle lorsqu'on vient à Jésus. Il nous donne la vie éternelle. Mais nous recevons aussi, comme on l'a vu, l'imputation de la justice de Christ. De Jésus. Alors, nous voulons prendre ce pain et cette coupe en mémoire de Jésus. Prions ensemble. Eh bien, Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour la croix, te remercier pour ce sacrifice parfait, là où tu t'es offert en sacrifice. Et lorsque mes péchés t'ont été transférés et ta justice a été transférée sur moi. Merci, Jésus. Merci pour cette grâce, pour cette miséricorde qui m'a permis d'avoir une relation intime avec Dieu, ce Dieu créateur de l'univers, parfaitement saint, trois fois saint. Merci Seigneur, nous prenons ce pain et cette coupe en mémoire de tout ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Mangeons et buvons.